Chacun, chacune, je vais encore prier pour ce temps que nous allons avoir de partager la parole ensemble. Seigneur, merci notre Dieu parce que nous pouvons effectivement nous confier en toi. Tu es celui qui est fidèle, qui ne change pas, en qui il n'y a pas l'ombre d'une variation. Merci parce que nous pouvons avoir confiance en tes promesses, Seigneur, et nous abandonner totalement à toi. Seigneur, merci pour ta parole encore ce matin que nous allons ouvrir, que tu puisses la bénir et la rendre active, Seigneur, productive dans nos vies. Qu'au travers de cette parole, Seigneur, tu puisses nous transformer, nous faire grandir, et que tu nous encourages à justement te suivre et à marcher avec toi, Seigneur. Merci parce que tu marches avec nous et tu nous accompagnes sur ce cheminement. Et tu nous transformes, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, en ton nom, Jésus. Amen. Alors, comme vous le savez peut-être, ou peut-être pas, c'est qu'on a des périodes d'études de textes dans la Bible. Et avant les vacances, nous étions dans l'épître de Jacques. Voilà. Eh bien, nous recommençons l'année avec Jacques. Et pas des meilleurs passages. Mais, c'est pas grave, je vais juste vous rappeler un petit peu les différentes thématiques qu'on a déjà vues dans Jacques. On arrive à la fin. Donc aujourd'hui, on va aborder une première partie du chapitre 4. Dimanche prochain, je crois, il y aura la deuxième partie. Et je ne sais pas si on fera directement le chapitre 5 ou on va avoir encore une pause avant de faire le chapitre 5. Ah, voilà, on va quand même finir avant d'avoir à nouveau une pause hein, pour autre chose. Voilà, bon. Donc, on redémarre Jacques et on va finir les chapitres 4 et 5. Donc, pour vous rappeler, on avait vu qu'au tout début, un chrétien mature est patient dans l'épreuve. Et donc, il y avait eu 4 ou 5 messages sur ce premier chapitre. Ensuite, il y a eu un chrétien mature pratique la vérité dans la foi. Et là, il y avait eu, je crois, 2 ou 3 messages sur le chapitre 2. Et sur le chapitre 3, un chrétien mature maîtrise sa langue. Et là, à nouveau, il y avait eu 2 ou 3 messages dessus. Et donc, je croyais l'avoir mis et je ne l'ai pas mis. Et nous allons voir maintenant le thème sur un chrétien mature est artisan de paix. Mais je ne l'ai pas inscrit, donc il n'apparaîtra pas. Donc, le chapitre 4 de Jacques, quand on nous a confié le découpage de qui allait prendre quel message, avait pour titre, entre autres, « Les conflits ». Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de lire le chapitre 4 de Jacques. Il est tout sauf encourageant. Et donc, ça a été un vrai challenge pour moi, ou pardon, à la française, un challenge. Ça a été un vrai challenge pour moi, d'aborder ce chapitre 4, mais de l'aborder de telle manière à ce qu'on puisse être encouragé. Et on va le lire et vous avoir. Il n'est pas facile. Il n'est pas facile parce que le titre « Conflit » est un doux euphémisme, comme disait quelqu'un, parce que, en fait, dans le chapitre 4, il est parlé de guerre. Il est parlé de meurtre. Il est parlé de lutte, de bataille. Enfin, voilà, rien de très encourageant, surtout quand on vous rappelait que Jacques parle à des chrétiens juifs, les premiers chrétiens, qui étaient répartis un petit peu dans tout l'Empire. C'est une des premières épîtres, Jacques. Hein. On est au tout début de l'Église. Et déjà, on voit que ça ne va pas de soi. Alors, je voulais quand même aborder ce chapitre, puisque ça parle de relations au sein de l'Église les uns avec les autres, de relations fraternelles ou sororelles. Et je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on pourrait réfléchir là-dessus, dans tout ce qu'on va voir, par rapport à la relation fraternelle ? Et ça aurait été bien que je fasse le message d'abord et qu'on ait les chants après. Parce que tout ce qu'on vient de chanter va tellement confirmer notre relation les uns avec les autres et notre manière de vivre. Alors, à la fin de la prédication, essayez de vous rappeler les chants. Et comme le dit Rebecca, rechantez ces chants pour nous encourager à vivre effectivement cette relation et cette relation les uns avec les autres, cette relation avec Dieu. Et donc le premier point, ça va être qu'est-ce qui alimente ma relation à l'autre dans l'Église ? Comment je vais alimenter le fait de vivre cette relation vis-à-vis de l'autre et de la meilleure façon possible ? Le deuxième point qu'on verra, c'est qu'est-ce qui alimente ma relation à Dieu ? Parce qu'il y a un lien, effectivement, de cette relation à Dieu et cette relation à l'autre. Et Jacques, vous l'avez bien vu hein, au fil des chapitres qu'on a vus, est quelqu'un de très pratique. Et à la fin du passage qu'on va voir de notre péricope, c'est comment bien vivre cette relation. Et Jacques, il va donner des actions bien précises. Vous voyez, il y aura des verbes. Il faut faire ça, 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 voilà. Ça, c'est Jacques, très concret. Donc, voilà les trois thématiques qu'on va aborder ce matin. Et j'aimerais, au travers de ces thématiques, vraiment, en tant que chrétien mûr, à chercher à bien vivre la communion fraternelle, la relation fraternelle, la communion fraternelle. Et donc, juste pour introduire le message, qu'est-ce que la communion ? Et donc, j'aime bien donner des définitions. Alors, communion, ça vient du latin. Cum et munir. Alors, ceux qui ont fait du latin, vous vous rappelez ce que c'est cum ? Avec. Voilà, avec. Cum, avec. Et munir, eh bien, c'est munir, mais c'est... J'ai été trop vite. Ah, mince. Ah, j'ai lâché un truc, là. Munir, c'est pouvoir à ce qui est nécessaire, fortifier. Alors, la communion implique donc le partage. Vous avez vu l'illustration, hein ? Le partage avec l'autre, afin de fortifier, de pouvoir à ses besoins. Alors, je pense que pendant les fêtes, eh bien, c'est un peu ce qu'on a dû vivre, hein, la communion, le partage, les repas. On se retrouve en famille ou on se retrouve avec des amis et on aime bien festoyer, partager, voilà, de vivre ce temps de communion. Et à l'Église, on aime bien vivre autant aussi ces temps de partage qu'on a eu soit au travers de repas ou des goûters, de la fête de Noël, de Thanksgiving et autres occasions qu'on a de vivre ce temps de communion. Donc c'était pour vous donner cette idée de communion qu'on va essayer de garder quand on va lire le texte de Jacques. Donc je reviens à la relation fraternelle. Quand je pense à la relation fraternelle, moi je pense à la famille. Alors, j'ai eu un frère et une sœur. Et je dois avouer que dans notre famille, c'est pas tellement ça qu'on vivait. C'était pas des petits anges qui chantaient, tout ça, non. Qui a eu des frères et sœurs ? Qui a des frères et sœurs ? Voilà, et vous avez vos propres enfants. Est-ce que c'est ça que vous vivez ? Pas... Bon, peut-être, hein, y a des familles modèles, je doute pas que peut-être parmi vous, il y a des super familles modèles. Non, nous, ce qu'on vivait, c'était plutôt ça. C'était les mêmes qui faisaient le repas, mais là, ils se tapent dessus. Hein. C'est... Alors, pour l'enregistrement, ceux qui n'auront pas les dias, c'est des illustrations sur Astérix et le village d'irréductibles gaulois. Autant ils font la fête, autant ils peuvent se taper dessus pour des questions de poissons pas frais. Bref, oui, alors, chez moi, c'était plutôt la guerre, effectivement. On se tabassait entre frères et sœurs. Ne me regarde pas, ne me touche pas, t'es pas mon père, t'es pas ma mère. Et mes enfants, pourtant je les ai jamais alignés en disant, ben voilà comment vous devez vous... Non, ils faisaient ça aussi, naturellement ça vient. Et je vois que mes petits-enfants aussi, ça vient comme ça. C'est pendant les vacances, là, j'ai le deuxième de mes petits-fils, celui de 6 ans, il dit à Gabriel, « Ah, t'es pas mon père !» Claire, hein, je suis la mère de ta mère. Oui, voilà. C'est, je ne sais pas, ça doit être inné quelque part, comme ça. Ça sort naturellement. Et on peut... Voilà, c'était plutôt la guerre. Alors, eh ben, malheureusement, dans les premières églises, eh ben, c'était effectivement la guerre. Et je vous invite à lire donc, Jacques, le chapitre 4, que je vous affiche ici, dans une traduction, peut-être pas celle de Second 21, ni de une traduction courante, Mais c'est une traduction que j'ai appréciée dans les différentes traductions que j'ai lues, et je vous expliquerai pourquoi encore après. Jacques 4, verset 1. D'où viennent les guerres et les luttes parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous n'avez pas. Vous êtes meurtrier, vous êtes jaloux et vous n'arrivez pas à obtenir. Vous êtes dans un état de lutte et de guerre et vous n'obtenez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal avec l'intention de satisfaire vos passions. Adultère. Ne savez-vous pas que l'amitié du monde, c'est l'inimitié contre Dieu? Quiconque veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Ou bien pensez-vous que l'Écriture dit en vain, c'est jusqu'à la jalousie que vous aime l'Esprit qu'il a mis en vous? Frères, sœurs, ne dites point de mal les uns des autres. Celui qui parle mal de son frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es plus un observateur de la loi, mais tu t'en fais juge. Comme je le disais, hein, quand on lit ce passage de Jacques, il n'est pas très encourageant. Et Jacques est assez dur envers ses auditeurs, ses premiers chrétiens. Et les mots qu'il emploie sont des mots très, très, très durs, en parlant de guerre, de lutte, de meurtrier et d'adultère. Et il commence directement par deux questions de rhétorique, parce qu'en fait, les réponses sont dans les questions mêmes. Hein. D'où viennent les guerres et les luttes? Ben, c'est à cause de vos passions. Des passions qui combattent dans vos membres, des passions charnelles, on pourrait dire. Et donc Jacques écrit ça aux premiers chrétiens, mais quand on lit les Actes, on voit que même déjà dans la toute première église, dans l'église de Jérusalem, là où il y avait les apôtres, là où il y a eu tant de miracles, là où il y a eu tant de choses, eh bien déjà, dans les premiers temps, dans les premiers mois de cette église, il y a eu des conflits. Alors déjà, il y en a deux qui sont morts, bam, par le Saint-Esprit. Parce qu'ils ont voulu faire croire qu'ils étaient de super bons chrétiens spirituels en apportant beaucoup d'argent au pied des apôtres, tout ça. Mais en fait, ils avaient triché, ils avaient menti. Et Pierre leur dit, mais ce n'est pas aux hommes que vous mentez, c'est au Saint-Esprit. Et bing, le mari meurt. La femme arrive un peu plus tard et il lui dit, ah, c'est bien ça? Oui, 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 c'est ça. Il dit, regarde, ceux qui rentrent là, qui rentrent par la porte là, ils viennent d'emmener ton mari. Et sur le coup, bam, elle meurt aussi. Mais ce n'est pas tout, parce qu'on lit quelques chapitres après dans les Actes qu'il y avait des disputes à cause des veuves et de la distribution de la nourriture. Et il y avait des différences, on faisait de la discrimination non positive. Ah, vous n'êtes pas né dans le pays d'Israël, vous êtes juif mais né à l'extérieur, on vous servira après, vous êtes des étrangers. Hein, on va d'abord servir nous, les nôtres, et puis les autres, on verra après. Oui, des passions qui luttent dans l'Église dès le début, dès l'Église mère. Alors, mon premier point, qu'est-ce qui alimente ma relation à l'autre? Nous allons nous plonger un peu plus en profondeur sur les raisons de cette problématique. Donc, comme je le disais, les mots de Jacques sont très forts. Ils sont tellement forts que certains commentateurs pensent que Jacques ne s'adresse pas à des chrétiens, mais à des gens qui, là, gravitaient dans l'Église et on ne sait pas trop qui ils sont. Parce que les mots qu'il emploie sont des mots réels, physiques. Il parle vraiment de guerre, de bataille, de lutte, de lutte physique. Alors, je ne me rappelle plus, c'était dans quelle assemblée nationale, de quel pays asiatique. Je crois que c'est asiatique ou oriental, je ne sais pas. Où il y a eu un désaccord et ça a fini en pugilat, à coups de savates qui se tiraient les uns sur les autres, et puis ça a fini en empoignade. Est-ce que c'est ce que les gens vivaient dans l'Église à l'époque. En tout cas, les mots que Jacques emploie sont des vrais mots physiques. Et quand il parle de meurtrier, ben, on se demande, est-ce que vraiment il y en a qui sont arrivés à tuer quelqu'un dans l'assemblée? Vous ne convoitez et vous n'avez pas. Vous êtes meurtrier. Vous avez des luttes et de la guerre parmi vous. Alors, j'ai choisi cette version-là parce que les mots, comme vous le savez peut-être en grec, dans les manuscrits grecs, il n'y a pas de ponctuation, il n'y a pas de virgule ou autre. Et puis, c'est les déclinaisons qui font que certains mots vont avec d'autres, hein, le génitif, le datif et autres choses de ce genre-là. Et c'est tout attaché les uns derrière les autres. Alors, des fois, les traductions ne sont pas faciles à faire. Et j'ai pris celle-là de traduction parce qu'elle est faite par binôme. Quatre binômes, action-réaction. Vous convoitez et vous n'avez pas. Vous êtes meurtrier et jaloux, mais vous n'arrivez pas à obtenir. Vous vous battez et vous n'obtenez pas, pas plus, mais parce que vous ne demandez pas. Et puis, vous vous plaignez de ne pas recevoir. Hein. Vous demandez mal, vous ne vous plaignez de ne pas recevoir parce que vous demandez mal. Et tout ça pourquoi ? Parce que c'est pour satisfaire vos passions. Vous cherchez à satisfaire vos propres besoins. Est-ce que ces guerres d'ambition, de recherche, de satisfaction personnelle sont liées à tout ce qui a été vu avant dans Jacques ? Vous vous rappelez un petit peu ? Il y a une notion de la langue, il y a la notion du miroir, qu'on ne voit pas les tâches qu'on a, il y a la notion d'être supérieur aux autres par le savoir, la connaissance. En tout cas, il est sûr ici, dans ce passage-là, qu'il est question de dominer et de posséder, et ce, envers et contre les autres, quitte à les accabler, les écraser, les dénigrer. On est loin du comme munir, de la communion, hein, de pouvoir aux besoins des autres. C'est pouvoir à ses propres besoins, quitte à écraser les autres. On est à total l'opposé de la communion. Alors, quand moi, peut-être vous aussi, quand vous avez lu ces textes-là, vous n'avez pas pensé au premier degré. Je pense qu'automatiquement, quand on lit ça, c'est tellement fort qu'on se positionne en un second degré, en quelque chose d'imagé. C'est pour ça que j'ai quand même tenu à dire que certains commentateurs, c'est-à-dire des gens instruits, très intelligents, qui étudient les textes en grec, ont pensé que ce n'était pas du second degré, mais du premier degré. Pour nous, on va quand même le prendre au second degré, et je ne rentrerai pas dans cette polémique de savoir s'il y avait vraiment eu des meurtriers ou pas dans le texte. Et pour cela, je ferai référence à ce que Jésus a dit en Matthieu 5, versets 21 et 22. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras pas, tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre mérite de passer en jugement. Et vous savez que dans la loi hébreu, israélite, si tu tues quelqu'un, le jugement, c'est quoi ? La mort, la lapidation. Donc, tu ne commettras pas de meurtre. Si tu commets un meurtre, tu mérites de mourir, de passer en jugement. Mais moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère, sa sœur, mérite de passer en jugement. Celui qui traite son frère d'imbécile mérite d'être puni par le tribunal. Et celui qui traite son frère de fou, d'être puni par le feu de l'enfer. Vous voyez le rapprochement que Jésus fait ? Quand on se met en colère contre un frère, une sœur, quand on le traite d'imbécile, de nul, de débile, de fou, on mérite la mort. Et c'est pourquoi que j'ai mis en plus petit, mais j'ai fait ce rapprochement avec les versets 10 et 11, où Jacques justement dit, ne dites pas du mal les uns des autres. Parce que si tu parles mal de ton frère, si tu le traites d'imbécile, de nul, de taré, de ce que tu veux, qu'il fait n'importe quoi ou autre, eh bien tu juges la loi. Tu tombes sous ce couvert, sous cette condamnation de Jésus. Que si tu parles mal de ton frère, ben tu mérites la mort, comme si tu es un meurtrier. Et Jacques, on le voit dans le chapitre 3, a parlé de la langue qui était meurtrière. Que la langue, verset 5, est un petit membre, et elle peut se vanter de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de la méchanceté. Parmi ces chrétiens, ces premiers chrétiens, chacun cherchait son propre plaisir, sa propre satisfaction, sa propre gloire au détriment des autres, quitte à condamner, à dénigrer, à rabaisser les autres. Et ce n'est pas que ces premiers chrétiens juifs, on voit dans les premières églises, Paul va devoir aussi reprendre les Corinthiens. Eux, ils en étaient arrivés au point même de traiter les frères et sœurs dans l'Église devant des tribunaux païens pour qu'ils puissent être condamnés par les tribunaux. Alors, je pense que ce n'est pas le cas encore chez nous. Je n'ai pas entendu dire ça, qu'il y avait un tel conflit qu'on a dû finir devant un juge ou l'autre. Je n'ai pas non plus entendu, ou en tout cas parmi mes frères anciens, des remontées de personnes qui avaient des conflits envers d'autres frères de l'Église et des critiques ou autres. Après, on n'est pas au courant de tout. Qu'est-ce qui alimente ma relation à l'autre ? Paul nous invite dans Philippiens 2, au verset 3, « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de regarder l'autre comme au-dessus de soi-même, comme l'autre supérieur à soi. Et c'est pour ça que j'ai mis comme conclusion, résumé à ce premier point, chercher le meilleur pour l'autre. Au début, j'avais marqué espérer le meilleur pour l'autre. Mais je me dis, espérer, c'est trop faible. Ouais, j'espère le meilleur pour toi. Chercher le meilleur pour l'autre. C'est-à-dire que, du coup, il y a une implication où je vais chercher le meilleur pour l'autre. Il y a quelques temps, en arrière, à Champfleury, on nous a demandé de faire un exercice pour le travail d'équipe. C'est de, pour chaque membre de l'équipe, trouver des points positifs. Ben, ça a été dur pour moi. Ça a dû vraiment être un engagement à essayer de chercher chez l'autre quelque chose que je vais estimer de positif, mais non seulement ça, alors peut-être que j'ai poussé la réflexion plus loin, mais chercher chez l'autre quelque chose qui fait mieux que moi. Écoutez, essayez cet exercice. Et vous allez voir que, du coup, vous allez voir, ah ben, chez l'autre, ça, moi, je ne peux pas le faire. Si moi, je ne peux pas le faire, c'est que lui, il est meilleur que moi. Et du coup, je le considère comme supérieur à moi. Chercher dans l'autre quelque chose qu'il fait qui est mieux que moi. Ce n'est pas évident. Parce qu'on est charnel, comme ça a été rappelé dans les prières ce matin. Hein ? Ce n'est pas facile. Des fois, il y en a qui nous tapent sur les nerfs, et dans l'Église aussi, malheureusement. Je suis sûr que moi, par mon exubérance, parfois, je peux taper sur les nerfs des uns ou des autres. Beaucoup disent que Gabrielle, mon épouse, aura une grosse couronne au ciel. C'est pas facile. Et pourtant, c'est quelque chose que un engagement que nous devons prendre. Et quand on le prend, eh bien, je vous assure que dans les relations, ça va mieux. Parce qu'on arrive à voir l'autre. Même s'il y a des points qui nous dérangent, de par ce qui fait ce qu'on est nous. Parce que voilà, on a nos personnalités. Et c'est vrai que des fois, on a des réunions au boulot, enfin à Chamfleury, où il y en a qui parlent. Mais ça me fatigue. Et pourtant, si je me dis, oui, mais là, la personne, elle a besoin de ça pour pouvoir établir un processus, une décision ou autre, eh bien, j'arrive à l'accepter. Avant, ça m'énervait, j'avais envie de couper court, dire, allez, c'est bon, maintenant on décide, c'est comme ça, c'est fini. Non, elle en a besoin. Et alors, du coup, des fois, j'arrive à faire de l'intermédiaire même. Quand je vois des collègues qui ont tendance à être un tranché un peu plus, de quoi tu as besoin ? Vous voyez, c'est un processus que j'ai dû apprendre et que j'essaye de mettre en pratique, que j'arrive pas forcément tout le temps. Voir l'autre comme meilleur que soi-même. Alors, on arrive à notre deuxième point. Qu'est-ce qui alimente ma relation à Dieu ? On voit là que, à nouveau, Jacques est très dur. Adultère, ne savez-vous pas que l'amitié du monde, c'est l'amitié contre Dieu ? À nouveau, ici, et là, un peu plus que même pour les autres termes, on voit que le terme adultère, c'est pas une question d'adultère physique, mais d'une adultère spirituelle. Et donc, c'est cet adultère au même sens que dans l'Ancien Testament, où le peuple était adultère quand il se tournait vers les idoles. Alors là, il n'est pas question d'idole, mais il est question du monde. Le monde, dans le Nouveau Testament, a différents sens. Il peut être géographique, quantitatif, des êtres humains, mais aussi idéologique, les idées que véhicule le monde, par opposition aux valeurs qu'on peut avoir en tant que famille de Dieu. Et on retrouve ces trois notions-là dans l'évangile de Jean, au chapitre 1, le verset 9. Cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde géographique, éclaire tout être humain. Elle était dans le monde géographique, mais le monde géographique a été fait par elle. Pourtant, le monde, les êtres humains qui constituent le monde, ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont acceptée, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et là, on voit bien cette distinction entre ceux qui vivent dans le monde avec leurs valeurs et qui ne veulent pas de Dieu, et ceux qui vivent dans le monde, mais qui ont accepté les valeurs de Dieu et qui sont devenus enfants de Dieu. Et là, Jacques nous dit, il ne peut pas y avoir consensus entre les valeurs du monde et les valeurs de Dieu. C'est pas possible. Il ne peut pas y avoir accord entre les deux. Soit on accepte les valeurs du monde, soit on accepte les valeurs du Dieu. Mais les deux, ça marche pas. Bon, vous allez me dire, mais quand même, dans le monde, il y a quand même des valeurs correctes. Heureusement. Heureusement parce que nous avons été créés à l'image de Dieu. Et il y a cette réminiscence de l'image de Dieu en nous qui fait que les êtres humains ne sont pas encore devenus des bêtes. Quoique, quand on regarde l'actualité, on se dit que certains, ils n'en sont pas loin, dans leur déchéance. Jésus dira dans Matthieu 6, au verset 24, « On ne peut pas servir deux maîtres. Soit on va haïr l'un et on aimera l'autre, soit on s'attachera à l'un et on méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Mammon qui était le dieu de l'argent. Vous ne pouvez servir Dieu et rechercher les richesses. C'est la première mention d'algorithme dans la Bible. Plus vous allez vous tourner vers le monde, plus le monde va vous inonder de ses valeurs. Et vous allez être attiré par ses valeurs. Inversement, plus vous allez vous tourner vers Dieu et les valeurs que Dieu veut nous donner, et plus on va s'inonder de ses valeurs et être transformé par ses valeurs. Alors, comment ne pas se laisser attirer vers le monde ? Il y a tellement de choses autour de nous qui peut nous y attirer et nous noyer dans tout ce que le monde peut nous proposer. On vit tous dans le même monde, on est soumis à la politique de nos gouvernements avec ses choix et ses principes de fonctionnement. Certains ont essayé de faire des listes. Ça tu fais, ça tu fais pas, ça tu fais, ça tu fais pas. Sauf qu'on n'en est pas tous au même niveau du cheminement avec Dieu. Et parfois, ça peut nous sembler un peu lourd à vivre et un peu intransigeant. Il faut se rappeler qu'il y a 4 domaines dans lesquels le monde veut nous attirer. L'autorité, position sociale, dominée. L'argent, entre surconsommation et avarice. C'est pas toujours avoir trop d'argent, mais d'être toujours à garder l'argent ou autre. Et Jésus dira qu'il nous faut chercher d'abord le royaume de Dieu, et toutes les choses nous seront données en plus. D'accord ? L'argent, la notoriété. Oui, être reconnu, être valorisé. Pour beaucoup de personnes, mais pour tout le monde, la valorisation est tellement importante. Être reconnu dans ce qu'on est, dans ce qu'on fait. Et des fois, c'est un réel sujet de souffrance, la notoriété. Et le 4e point, la sexualité. Ô combien de nos jours, la sexualité détruit les personnes. Parce que via Internet, on n'a plus à aller se cacher pour aller chercher quoi que ce soit. Tout vient à la maison. Tout rentre à la maison. Et combien pour nos jeunes, ça peut les atteindre. Déjà, quand ils n'ont pas de barrière sur les réseaux sociaux ou autres. La sexualité. Alors, ces 4 domaines-là, rappelons-les, hein, donc l'autorité, l'argent, la notoriété, la sexualité, sont des valeurs que le monde essaye de nous submerger et de nous éloigner de Dieu. On pourrait être à l'affût de dire « Ah oui, attention, il faut que je fasse ça ou pas ça ou pas ça ». La Bible nous donne un moyen pour alimenter notre relation à Dieu. Romains 12, 2 « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Ok, Seigneur, je comprends. Le monde essaye de m'attirer, de m'engouffrer vers lui. Et moi, il faut que je fasse renouveler mon intelligence, mon discernement pour être plus attiré vers toi. Mais concrètement, ce n'est pas facile. C'est une belle phrase, Seigneur. Comment je la mets en pratique? Alors déjà, il y a le Saint-Esprit qui vient nous aider. Paul va dire au reste, frères et sœurs, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est digne, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est moralement bon et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Bon programme! Moi, j'y arrive pas, Seigneur. Un jour, quelqu'un m'a donné une astuce que je vais vous transmettre maintenant et qui m'aide à avoir cette orientation-là. À votre avis, qui est digne de tout ce qui est juste? Qui est juste? Qui est pur? Qui est aimable? Qui mérite l'approbation? Qui est moralement bon et digne de louange? Qui? Amen. Jésus. Que Christ soit l'objet de vos pensées. Que Christ soit au centre de votre vie. Et là, l'algorithme va se mettre en marche. Il va se mettre en marche et il va nous transformer de gloire en gloire à son image par le Saint-Esprit. Par nous-mêmes, on n'y arrive pas, on n'a pas la force. Mais si on se tourne vers Dieu, si on met Dieu au centre, si on met Christ au centre de notre vie, si on cherche vraiment à aller vers lui, par son Saint-Esprit, il va nous transformer. Il va nous montrer ce qu'il faut changer dans nos vies. Heureusement que Dieu ne nous montre pas tout d'un coup ce qu'on doit changer. On serait écrasé. Mais de gloire en gloire, il va nous transformer par son Esprit qui œuvre dans nos vies pour qu'on soit à son image. Mettre Dieu en premier. Alors, rapidement, je finirai. Comment mettre en place une bonne relation fraternelle? Et là, Jacques, il va nous donner une liste de choses à faire. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il s'enfuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes et femmes partagés. Ayez conscience de votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Il faut être contrit, reconnaître notre misère, notre péché. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Frères, ne dites point de mal les uns des autres. Et là, à nouveau, on voit qu'il y a différentes étapes. Première étape, eh bien, c'est de vouloir se soumettre à Dieu. De décider que Dieu est notre maître et que c'est lui qui dirige nos vies. La deuxième étape, c'est de rechercher sa présence. Combien de temps je passe à essayer de chercher la présence de Dieu dans ma vie? Je le parle pour moi, hein, je ne dis pas vous, je. Et c'est vrai qu'on est tellement happé par tout ce qu'on doit faire que des fois on arrive à la fin de la journée, on est couché, « Ah Seigneur, merci de m'avoir gardé pendant cette journée. » Heureusement qu'il est là présent. Hein. Et donc c'est vraiment un challenge à chercher à s'approcher de lui. Mais avec cette promesse qu'il s'approchera de nous. De se soumettre à Dieu avec cette promesse que le diable s'enfuira. Et c'est ce que Jésus a vécu dans le désert. Le diable est venu le tenter, et il est venu le tenter sur trois premiers domaines. Sur l'autorité. Si tu es vraiment le Fils de Dieu, si tu as cette autorité, dis que ces pierres se changent en pain. Non. Sur l'argent. Si tu m'adores, eh bien tous ces royaumes, toute cette richesse t'appartiendra. Sur la notoriété, alors celle-là on le comprend un peu moins bien, si tu sautes du haut du temple, alors tous te reconnaîtront. Parce qu'il y avait, comment on appelle ça, une pensée, le terme m'échappe maintenant, chez les juifs, qui disait que quand le Messie viendra, il viendra du haut du temple. Et tous le reconnaîtront comme le Messie. Elle n'est pas tout à fait fausse, parce qu'on le sait maintenant, et Jésus l'a dit, qu'il reviendra sur les nuées, et que tout œil le reconnaîtra. Et c'est ce que le diable lui dit. Vas-y, saute du temple, il ne t'arrivera rien, et tous te reconnaîtront. Et Jésus a résisté, et le diable est parti. Alors, soumettez-vous. Approchez-vous de Dieu et reconnaissez votre misère, reconnaissez votre péché, reconnaissez que vous êtes pécheur. Repentez-vous, changez d'attitude. Et puis après, pour la notoriété, humiliez-vous devant le Seigneur. Celui qui veut être le premier, qu'il soit le dernier. Humiliez-vous devant le Seigneur, parce que notre valorisation, et on a besoin d'avoir de la valeur, on a besoin d'être reconnu pour ce qu'on est. Notre valorisation, on l'a en Christ. Et Dieu vous élèvera. Dieu vous donnera la valeur que vous avez. C'est lui et en lui que nous sommes valorisés. Et enfin, le dernier que j'ai mis un peu à part, la cinquième étape, qui n'est peut-être pas une étape, je l'ai mis à part parce qu'elle est en négatif. C'est aussi un impératif, mais en négatif. Ne dites pas de mal les uns des autres. C'est un peu comme si c'est la conclusion. Pour pouvoir bien vivre votre relation, pour ne pas dire du mal les uns des autres, eh bien, voilà ce que vous devez faire. Votre relation avec Dieu. Vous devez changer de comportement, reconnaître vos fautes, vous approcher de Dieu, vous soumettre à lui et vous humilier devant lui. Toute une série de comportements, d'actions à mener pour acquérir ce statut de chrétien mûr qui va chercher non pas à se faire grandir lui-même, mais à faire grandir l'autre dans l'Église. la relation fraternelle, chercher le meilleur pour l'autre, mettre Dieu en premier, changer de comportement. Mais si nous marchons dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Christ au centre, son sacrifice. Et alors nous pourrons marcher dans la lumière et être en communion les uns avec les autres. Amen.